Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'entendre la voix d'une écrivaine, Caroline Laurent, qui sort du silence après un long traumatisme, après avoir appris que dans son entourage proche, un adolescent avait subi un inceste de la part d'un homme qu'elle connaissait bien et dont la femme était son amie. Une histoire de la violence, hélas très répandue, à cette singularité près qu'elle s'inscrit ici, dans la littérature et dans trois livres exactement. Le premier date de 2017. À l'époque, Caroline Laurent est éditrice et travaille avec Evelyne Pizier sur ses mémoires. Celle-ci est une militante féministe reconnue en France, essayiste, politologue, qui a été l'épouse du ministre Bernard Kouchner, dont elle a eu trois enfants. Quelques mois avant de finir d'écrire son autobiographie, Evelyne Pizier décède et son nouveau mari, Olivier Duhamel, demande à Caroline Laurent de terminer et co-signer ce texte posthume qui s'intitulera « Et soudain, la liberté ». Puis en janvier 2021, un deuxième livre vient tout dynamiter. La fille d'Evelyne Pizier, Camille Kouchner, dénonce dans son récit « La Familia Grande » les agressions sexuelles dont son frère jumeau a été victime par son beau-père, Olivier Duhamel, lui aussi éminent intellectuel français. C'est le choc pour tout le monde, pour Caroline Laurent aussi, qui était du premier cercle et qui n'avait rien su. C'est ainsi qu'arrive aujourd'hui ce troisième livre, celui d'une jeune femme qui a été sidérée par cette découverte, qui s'est sentie trahie par ceux qu'elle croyait connaître. Et après des mois de colère, de chagrin, d'incompréhension, elle reprend la plume pour raconter non seulement la douleur, mais l'impact de cette douleur sur l'écriture. Elle vient donc de publier « Ce que nous désirons le plus » aux éditions Les Escales, sans pourtant jamais citer les noms de ce couple. Je lui ai demandé pourquoi. Caroline Laurent.
Je crois que j'avais l'impression que citer les noms, c'était tomber dans le sensationnalisme, c'était faire une place trop grande à ce que j'appellerais des labels, des étiquettes. Ça aurait été peut-être une manière aussi de faire tout ce que je refuse, c'est-à-dire du témoignage. Moi, je voulais vraiment être dans le champ littéraire et extraire d'une situation singulière, en fait, la vérité universelle d'une trahison, d'un effondrement. C'était ça qui m'intéressait, cette quintessence-là. Et c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas nommer expressément les personnes en question.
Alors, pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien, je rappelle un peu les faits. On parle ici d'une femme brillante, essayiste, professeure, politologue, dont vous étiez l'éditrice, puis l'amie, mais qui meurt en 2017 sans avoir fini son autobiographie. Donc, avec le soutien de son mari, vous écrivez la fin de ce livre, avec cet homme, en effet, peut-être encore plus célèbre, agrégé de droit public, politologue également, professeur des universités émérites, qui devient d'une certaine façon votre père de substitution. Et 4 ans plus tard, donc, il est accusé de viol et d'inceste sur son beau-fils, le fils de votre amie, qui, elle, n'a jamais rien dénoncé. Et en fait, c'est donc un double choc pour vous, auquel s'ajoute peut-être une once de culpabilité de ne rien avoir vu, deviné. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit ?
Ce que je dis dans le livre, c'est que la seule faute que je me reconnais dans cette histoire, c'est peut-être celle de ne pas avoir été une bonne lectrice de la situation, quand bien même je sais aujourd'hui que je n'aurais pas pu lire ce drame-là entre les lignes, parce qu'il y a des choses qui sont invisibles. C'est le propre de ces secrets de famille, de rester opaque, complètement verrouillé sur eux-mêmes. Mais sans doute que mon égo d'écrivaine et d'éditrice aurait souhaité être capable de percer ce mystère-là, que je n'ai pas su percer. Après, c'est évidemment l'histoire d'un effondrement. C'est l'histoire d'une paralysie, c'est l'histoire d'un choc brutal, violent, qui fait qu'un beau matin, on découvre des êtres qu'on pensait connaître intimement, mais sous un jour totalement différent. C'est comme si le monde changeait de visage.
Avec l'impossibilité de lui demander à elle, entre guillemets, des comptes, puisqu'elle est morte, mais de la même façon que l'homme, cet homme, essaye de vous appeler plusieurs fois, vous refusez de lui parler. Pourquoi ?
Parce que je pense que autant j'ai perdu 2 fois cette amie chère, la première fois lorsque son corps est retourné à la terre, et puis une deuxième fois lorsque le symbole et l'héritage qu'elle m'avait légué sont devenus autre chose aussi, de par les révélations. Mais lui, je l'ai perdu de son vivant. J'ai perdu un ami qui n'était pas mort, qui n'était pas mort physiquement, j'entends. Et c'était tout à fait singulier de vivre cette expérience-là de quelqu'un qui était omniprésent, finalement, dans mon existence et qui, du jour au lendemain, étant ce qu'il était réellement, ne me permettait plus, moi, de le reconnaître. Donc, je ne sais même pas si c'est que j'ai coupé les ponts, c'est tout simplement que je ne reconnaissais pas la personne que, moi, j'avais fréquentée. C'était quelqu'un de neuf qui surgissait devant mes yeux effaré.
Mais jamais avec l'envie de lui crier votre colère, justement, puisqu'il essaye de vous appeler?
Je pense que ce serait une erreur d'essayer de crier cette colère-là, parce que déjà, ce n'est pas moi la victime principale, et loin s'en faut. Donc déjà, par respect pour la personne qui, elle, a vraiment été abusée. Et puis, par ailleurs, parce que je pense que dans ces cas-là, il faut complètement trancher. Il faut pas laisser une brèche ouverte pour que les choses puissent éventuellement se renouer d'une manière ou d'une autre. Le lien était mort, en fait. Il n'y avait plus rien à se dire, je crois.
Oui, c'est l'histoire d'un deuil.
C'est l'histoire d'un deuil et même de plusieurs deuils.
La sidération, le chagrin, cette espèce de poison, finalement, Caroline Laurent, qui vous remet en question. Qu'est-ce qui se sent attaqué en premier, la femme ou l'écrivaine ?
Sans doute l'écrivaine. Parce que si j'ai raconté cette histoire, c'est justement, comme vous le disiez formidablement en préambule, c'est parce que tout tourne autour des livres dans cette histoire insensée. C'est que je suis née à moi-même une première fois grâce à la coécriture de ce premier livre avec cette amie-là, qui déjà était une histoire inattendue et assez inouïe, puisque moi, l'éditrice, j'étais devenue la co-autrice de ma propre autrice. Enfin, c'était une situation très, très atypique. Et puis ensuite, parce que j'avais donné, en écrivant ce premier livre, en fait, ce que j'avais de plus intime. Déjà, j'avais donné mon nom. Partager son nom sur une couverture, c'est quand même quelque chose qui relève d'un acte fort. Puis j'avais donné, je crois, ma candeur, j'avais donné ma passion, j'avais donné ma jeunesse, enfin j'avais donné tout ce qui fait de moi celle que je suis. Et j'ai eu le sentiment que ça avait été touché, sali par ce secret de famille. Et cette femme, cette amie, pour moi, incarnait la liberté. Hein, c'était quelque chose...
Dans le titre du livre.
Absolument, c'était vraiment le mot capital, le mot clé de cette histoire-là. Et je découvrais une femme qui, tristement, sans doute, de je ne sais quelle manière d'ailleurs, je ne saurais sans doute jamais, mais était restée prisonnière. Prisonnière de son mari, prisonnière peut-être d'un schéma, d'une époque, que sais-je. En tout cas, il y avait une dichotomie entre ce que moi j'avais cru véhiculer comme valeur à travers ce roman-là, à travers ce qu'elle m'avait montré d'elle, et ce que je découvrais, encore une fois, sous un autre jour.
Je doute des femmes et je ne crois plus aux hommes. Écrivez-vous dans un premier temps. Et de fait, c'est vrai que votre vie privée va être chahutée par ce sentiment de catastrophe qui vous habite. Est-ce que vous diriez aussi que ça fait remonter en vous la mort de votre père, décédé quand vous aviez 14 ans, comme en écho à ce premier traumatisme?
Mais c'est ça en fait qui s'est passé, c'est que cette catastrophe inaugurale, la catastrophe du 4 janvier 2021, a fait revenir tous les revenants. C'est pourquoi je pense que la chute a été aussi brutale pour moi. Je pense que tout simplement j'ai fait, à travers cette catastrophe-là contemporaine, le deuil de mon père qui pourtant était mort 20 ans plus tôt. C'est le propre de ce genre de drame, je crois, de faire communiquer tous les chagrins entre eux, d'ouvrir les béances sur les béances, de creuser plus loin encore les failles. Et ce qui s'est passé pour moi avec cet homme qui effectivement avait un caractère paternel, et puis évidemment ce n'est pas anodin que quelqu'un qui a un caractère paternel soit accusé d'inceste, enfin il y a des échos comme ça très perturbants, mais c'est sans doute pas anodin que ce deuil-là d'une personne vivante ait réveillé donc le deuil d'une personne vraiment décédé, qui est mon père et qui était une figure centrale, surtout pour moi, l'enfant unique, qui m'était construite mon propre héros, je pense. Donc il y a eu quelque chose de très douloureux, profond, vertigineux dans cette année-là, cette année de chagrin, cette année de crise, parce qu'effectivement, d'un coup, tous les morts remontaient à la surface. Et c'est donc un livre, au début en tout cas, qui est un livre hanté, un livre avec des galeries souterraines ou cours des fantômes encore. Et tout l'enjeu, bien sûr, est de laisser partir ces fantômes.
Et vous dites aussi que cela vous jette dans un exil. Alors, je me demandais d'où vous vous sentiez exilée, Caroline Laurent. Est-ce que c'est de votre chère île Maurice ou d'un autre territoire, pas forcément géographique d'ailleurs ?
Je pense que ce livre-là, c'est l'exil de l'enfance. Je pense que c'est vraiment le premier livre écrit avec ma voix de bout en bout, sans déguisement, sans paravent. C'est le livre de la mise en péril, le livre de la mise, mise à nu. Et donc, c'est le livre de l'âge adulte. Jusque-là, même dans mon dernier roman qui était plein de colère, de révolte, Rivage de la colère, qui revenait sur un drame historique, qui faisait de moi peut-être une écrivaine engagée, je pense que même dans ce livre-là, j'étais encore à ma manière une petite fille. Et ce livre-ci, ce que nous désirons le plus, c'est celui de l'affirmation d'une femme qui découvre progressivement qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus. Et ce qu'elle veut, cette femme, c'est écrire. Et c'est vraiment l'histoire d'une métamorphose, en fait. C'est qu'au début, on est là, dans le doute, dans l'hésitation, dans le chagrin. Et puis, à un moment donné, il y a une voix qui nous emporte et qui nous permet enfin de nous tenir debout.
Sauf qu'avant d'en arriver là, et ce sera l'objet de notre deuxième partie, effectivement, cette catastrophe percute votre écriture fictionnelle d'ailleurs. Oui. Puisque après ce premier roman que vous venez d'évoquer, très réussi, Rivage de la colère en 2020, pour lequel vous avez reçu de très nombreux prix littéraires, là c'est la panne sèche, ce qui vous permet d'ailleurs cette longue réflexion sur l'écriture dont nous allons parler dans un instant. Pour le moment, je vous propose une pause musicale. Très peu de références, évidemment, dans ce récit. Néanmoins, j'ai retenu le nom d'un chanteur, Mouloudji.
Oui.
Est-ce que vous aimeriez qu'on écoute un de ses titres ?
Avec plaisir.
Lequel en particulier ?
L'amour.
Alors, on écoute l'amour.
L'amour, l'amour, l'amour dont on parle. À l'amour, c'est un printemps craintif, une lumière attendrie, ou souvent une ruine. À l'amour, c'est le poivre du temps, une rafale de vent, une feuillée de lune. L'amour, à l'amour dont on parle toujours. L'amour met la nuit un bonnet et le jour porte un masque qui veut que l'on grimace. L'amour, l'amour, c'est parfois même aussi le visage d'un autre qui n'est ni lui ni l'autre. À l'amour, à l'amour, à l'amour dont on parle toujours. À l'amour, à l'amour, c'est plus d'une fois un panier vide au bras, l'arc-en-ciel sur deux cœurs. À l'amour, à l'amour, à l'amour, c'est quand je t'aime. À l'amour, c'est quand tu m'aimes, sans me le dire, sans te le dire. À l'amour, l'amour, c'est quand tu m'aimes. L'amour, c'est quand je t'aime, sans te le dire, sans me le dire.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Caroline Laurent qui publie « Ce que nous désirons le plus » aux éditions Les Escales. Un titre qui peut donc paraître paradoxal après tout ce qu'on a dit en première partie, à savoir que c'est le récit d'un choc, d'une crise dans la vie d'une femme, vous, après avoir appris la tragédie d'un inceste perpétré par un proche et non dénoncé par son épouse, votre amie, avec tous les impacts que ça suppose psychologiquement et littérairement. Mais justement, ce titre est extrait d'une citation d'écrivaine. Est-ce que vous voulez bien nous la rappeler dans son intégralité ?
Avec plaisir. Le texte que j'ai mis en exergue, effectivement, du livre, et ce que nous désirons le plus, la phrase de Deborah Lévy, tirée de son roman autobiographique « Le coup de la vie », est la suivante. « A priori, le chaos représente notre pire crainte, mais j'en suis venue à croire que c'est peut-être ce que nous désirons le plus. » Alors effectivement, c'est une phrase qui pourrait paraître contre-intuitive au départ, mais que je trouve très fortifiante. C'est une théorie du chaos général, d'une certaine manière, qui nous dit que dans les moments de tempête, on découvre qui on est. On est obligé de faire des choix, on est obligé de naviguer, en fait, au milieu des vagues qui se soulèvent. Et en fait, il y a quelque chose qui dit la vitalité dans cette phrase. Et cette année de chagrin, cette année de chaos que j'ai traversée, finalement, elle m'a permis de clarifier peut-être un peu mieux mes désirs, mes envies. Et après la tempête vient la renaissance. C'est pour ça que c'est peut-être ce que nous désirons le plus. C'est que derrière, il y a la vie qui recommence.
Mais c'est sans doute lié aussi à votre tempérament de battante, Caroline Laurent, parce que ici, voir que le chaos peut avoir une vertu de révélation, c'est magnifique. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait cette force. En tout cas, ici, c'est donc la lecture de Deborah Lévy qui vous guide, qui vous soutient. Et aussi, vous décidez de voyager, d'aller seule aux îles Féroé, qui, je le rappelle, sont au nord du Danemark, où vous allez pendant 3 semaines. Et pourquoi là-bas ?
Alors, pourquoi là-bas, moi qui suis effectivement une fille de l'océan Indien, de l'île Maurice et du Lagon ? Sans doute parce que j'avais besoin d'aller à l'autre bout de moi-même, que je voulais faire ce voyage comme le font les grands aventuriers un peu mythiques qu'on peut avoir en tête. Je voulais choisir l'hostilité, le froid, la nature plus grande que moi. J'avais besoin de ce dehors qui allait me saisir et puis me mettre une petite claque de réel aussi. Je crois que je cherchais ça. Et il se trouve que les îles Féroé en plus, et ça c'était un délire d'écrivain totalement assumé, mais se trouve à la convergence de courants froids et courants chauds. C'est une zone où le Gulf Stream en fait circule beaucoup. Et symboliquement, le fait d'être dans un lieu battu par ces courants chauds et ces courants froids, je trouve mimer complètement la situation que moi-même j'étais en train de vivre à l'intérieur dans ma vie. Donc j'ai choisi de partir là-bas, effectivement, en solitaire. Et le but, c'était de marcher, marcher, marcher. Et en marchant, finalement, d'arriver à nouveau à écrire.
La solitude, d'abord, me paraît aussi un élément très important. Alors que vous étiez très entourée, néanmoins. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas, comme si, voilà, il y avait une cloche qui étouffait votre chagrin, enfin, ou en tout cas votre envie de parler. Il y avait quelque chose qui était paralysant. Et oui. C'est dans la solitude que vous vous retrouvez.
Oui, j'avais besoin d'être seule dans une nature puissante pour faire silence en moi. Il y avait trop de brouhaha. J'avais l'impression que le bruit vraiment était partout, même quand j'étais entourée des meilleures personnes qui soient. Mais je ne savais plus qui j'étais, où j'habitais, quel était mon nom.
Vous avez été très sollicitée par les journalistes, n'est-ce pas ?
Oui, oui, il y a eu là aussi une tempête, pour reprendre la métaphore, mais une tempête médiatique qui avait quelque chose pour moi d'un peu harcelant. Je lâche le mot de manière assez franche, quoi. C'est vrai que c'était compliqué. Et ce brouhaha, en fait, était incessant. Donc, il fallait que je parte dans un lieu où j'allais être sans connexion, sans 4G, sans réseaux sociaux. Donc, et puis, être dans un lieu aussi dont je n'allais pas comprendre la langue. Ça, c'était très important pour moi. Si j'étais partie à Maurice, si j'étais partie en Angleterre, si j'étais partie sur une île italienne, par exemple, la situation aurait été encore une fois bien différente, puisque je parle ces langues-là. J'avais besoin d'être dans un pays où tout allait m'être étranger. Parce que dans cet exil choisi, pour reprendre le terme d'exil, il y avait quelque chose aussi qui était de l'ordre de la possibilité d'une renaissance. Comme l'enfant qui découvre un langage. Il y avait un peu de ça.
Est-ce que c'est là que vous commencez de retrouver l'envie d'écrire ? Ou plus exactement, c'est le livre qui vient s'imposer à vous ?
C'est le lieu où le jeu s'est imposé. C'est-à-dire que moi qui jusqu'ici écrivais plutôt à la troisième personne, en mettant en avant les personnages, et puis le souffle épique presque de l'histoire, là, il y avait quelque chose de très simple en fait qui s'est imposé à moi. Et j'ai l'impression que le paysage a un peu déteint sur moi et sur mon écriture. C'est que les eaux comme ça, transparentes, au contraire noires et inquiétantes, eh bien, venaient infuser mon écriture. Et donc, dans cet endroit du bout du monde, dans ce coin perdu du Grand Nord, j'ai compris qu'il fallait tout simplement, de façon très humble, hein, très modeste, mais écrire au jeu ce que j'avais vécu pendant une année. Et c'est le jeu, la possibilité de s'exprimer en fait pour la première fois en mon nom propre, qui a libéré ma plume.
Mais à quel moment vous décidez, Caroline Laurent, justement d'écrire un livre sur ce sujet et pas d'essayer d'écrire une autre fiction ? C'est pas tout à fait la même chose.
Tout à fait. C'est tout simplement, j'allais dire, le pragmatisme qui m'a forcée à ça, parce que j'étais sur un projet romanesque. J'avais un projet romanesque en cours. La catastrophe est arrivée avec les révélations, son cortège de coups de fil et de messages effectivement médiatiques. Et là, panne sèche, impossible d'écrire la moindre ligne de fiction. C'est comme si le romanesque, à ce moment précis, se refusait à moi, sans doute parce que le réel venait de me percuter de manière extrêmement violente. Et donc, le réel réclamait son dû. Il y avait quelque chose comme ça qui était de l'ordre d'une transaction presque. Il fallait que je donne un peu de moi, peut-être pour me dédouaner d'ailleurs de cette culpabilité sans fondement finalement, mais qui était liée au fait de ne pas avoir su lire entre les lignes ce qui s'était passé dans cette famille qui n'est pas la mienne. Et là-dessus, j'ai évidemment progressé et mûri, mais il y avait sans doute ça. Et puis tout simplement, je n'arrivais pas à écrire autre chose. C'était aussi simple que ça. Et ce livre-là, il m'est tombé dessus. Je ne l'ai pas choisi. Je ne pensais pas avoir à l'écrire un jour, évidemment. J'aurais sans doute eu plus de facilité à écrire un nouveau roman flamboyant. Et ça aurait été peut-être plus attendu aussi de la part du lectorat, que sais-je. Mais tout simplement, c'était impossible. Et l'écrivain, parfois, est obligé de suivre ces méandres-là, ces labyrinthes, et de se laisser porter par ce qu'il peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire.
Et là, comme Annie Ernaux, autre auteur que vous lisez avec passion et qui, à juste titre, vient d'être récompensé par le prix Nobel de littérature, vous reprenez à votre compte, Caroline Laurent, son expression « écrire avec un couteau ». Vous dites même « je planterai un poignard dans le livre pour tuer le passé ». C'est un peu radical comme expression, non ?
Je suis un peu radicale, je crois, finalement.
Mais comme s'il fallait combattre la violence par une autre forme de violence ?
Alors, je ne sais pas si c'est que de la violence ou de l'intensité. C'est sans doute un rapport à l'existence, donc à l'écriture, qui relève de l'intensité chez moi, où la demi-mesure n'a pas voix au chapitre. L'idée, c'est qu'il fallait effectivement aller au bout de quelque chose qui me faisait mal. Je n'avais pas le choix. Et donc, l'image du poignard, elle s'impose comme le curetage chez Annie Ernaux, mais c'est l'idée de cette pointe qui vient effectivement creuser un peu plus peut-être l'abcès, mais pour enlever les derniers morceaux de pus, quoi. Il fallait enlever tout ça, il fallait gratter à l'os, exactement. Ouais, c'est ça.
Aujourd'hui, vous avez quitté votre poste d'éditrice dans la maison où vous travaillez, Caroline Laurent. Vous avez monté votre propre agence et vous racontez ici que vous êtes également visiteuse de prison. Vous n'avez pas peur de vous retrouver face, alors non pas à l'homme que vous fuyez, parce que l'inceste dont il est accusé a été prescrit selon le temps judiciaire, mais face à un profil de coupable similaire, même si je sais bien qu'on ne connaît jamais la nature des actes pour lesquels les hommes ont été condamnés quand on les rencontre en prison.
Oui, effectivement. À chaque fois que je me suis rendue dans ces ateliers d'écriture au centre d'arrêt du Mans, j'avais face à moi un groupe. J'étais avec une amie, je n'étais pas seule. On ne savait pas pour quelles raisons les détenus étaient là face à nous. Mais il y avait quelque chose, en fait, c'est ce que vous venez un petit peu de suggérer, qui était très différent entre eux et l'homme dont on parle dans ce texte, c'est que eux sont en train de payer pour leurs actes. Justement, eux ne sont pas sous le coup de la prescription. Du coup, il y a quand même, on va dire, une forme de dette là qui est en train d'être payée. Donc, c'est autre chose. Et ce qui, moi, m'intéressait en allant en prison, outre le fait peut-être que, par le passé, mon propre grand-père, à l'île Maurice, aussi a été visiteur de prison, ce qui est peut-être quelque chose qui m'a rattrapé inconsciemment. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir ces hommes, d'un coup, redevenir presque comme des enfants du moment qu'ils étaient avec leurs feuilles et leurs stylos devant nous. Parce que j'avais l'impression de contribuer très modestement, mais quand même, à préparer leur sortie. Et une société, de toute manière, qui va faire ressortir des criminels sans les avoir, sans leur avoir permis en fait, d'atteindre leur moi profond, c'est, à mon avis, un projet voué à l'échec. Et par l'écriture, on sentait que ces hommes, quand même, arrivaient à toucher quelque chose de sensible en eux, à retrouver une forme de lumière, quelque chose aussi qui est comme un espace de liberté. L'écriture, la lecture, les mots. Et quand on a les mots, on n'a peut-être pas besoin justement de sortir le poignard, ou alors que dans la métaphore et dans le texte qu'on va écrire. Donc j'avais le sentiment, à mon petit niveau, de participer à quelque chose quand même de plutôt lumineux.
Vous dédiez ce livre aux femmes qui écrivent. Et en même temps, il se trouve que cette femme qui vous a trahi était aussi une écrivaine.
Oui.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire aux femmes qui écrivent, puisque même les femmes peuvent mentir ou par omission ne pas dire ce qui s'est passé 40 ans plus tôt dans sa propre famille?
Tout à fait. Bah, c'est toute l'ambiguïté, je pense, de l'écriture et de ce rapport tellement profond et presque sensuel d'ailleurs à l'écrit. C'est que je ne suis pas en mesure, moi, aujourd'hui, de la juger, elle, puisque, effectivement, elle est décédée. Je n'aurai jamais de réponse à mes questions. Donc, je reste avec ces questions et j'accepte de rester avec ces questions, mais d'en faire quelque chose qui m'appartienne, d'où ce livre. Les femmes qui écrivent, quels que soient les chemins qu'elles vont emprunter, elles sont quand même dans une forme de combat. Donc, il y a quelque chose de fort à encourager, je trouve, parce que la littérature reste, selon les sujets qu'on aborde, un domaine de conquête, je crois vraiment, de conquête. Sur soi, pas forcément juste sur des questions de genre, mais sur soi-même, sur le regard de l'autre, sur ce que l'entourage peut penser de nous, etc. Et donc, j'avais envie, malgré tout, de non seulement remercier ces femmes-là, de continuer à me ranger aussi dans cette filiation. Et je dois avouer que quand j'ai dédié le livre aux femmes qui écrivent, j'ai avant tout pensé à Annie Ernaux, à Déborah Lévy, à Delphine Horviller, à Cynthia Fleury, à toutes ces femmes John Didion, évidemment, qui ont été des phares dans la nuit pour moi.
C'est un livre de renaissance, dites-vous, un livre qui dit aussi la perte de l'innocence. Il me semble que c'est aussi un livre de naissance tout court, parce que je pense que ça a changé radicalement à tout jamais votre lien à la littérature et à l'écriture, et que plus jamais vous n'écrirez comme avant et que plus jamais vous n'éditerez comme avant. Ça, c'est une intuition. Et ça va dans le sens de ma question suivante. Vous avez écrit pour vous, bien sûr, mais pour qui d'autre encore?
Mais je pense que j'ai écrit pour tous ceux qui sont, comme je l'ai été, traversés par le chagrin. Je pense que j'ai écrit pour les âmes endolories. Je pense que j'ai écrit pour, encore une fois, les femmes qui veulent écrire aussi, qui ne se l'autorisent peut-être pas aujourd'hui. Et puis, j'ai écrit avec cette intuition renforcée largement par la lecture d'Annie Ernaux, mais qui est que l'intime est politique et que raconter une destinée singulière, individuelle, peut avoir des résonances collectives et peut libérer d'une manière ou d'une autre les personnes aussi qui s'emparent du texte. Et j'ai eu d'ailleurs des échanges avec des lectrices qui allaient dans ce sens, des moments d'ailleurs assez émouvants, mais de gratitude sur le sentiment d'émancipation que cette lecture en fait leur avait procuré, alors qu'évidemment on n'a pas vécu les mêmes choses. Mais puisqu'on parle de grands thèmes, il y a celui du deuil, il y a celui du chagrin, il y a celui de la trahison, il y a celui de la folie aussi, puisque tout ça rendait un peu fou. Et l'écriture et le langage, en fait, notre rapport au langage, effectivement, quand il est placé au centre de l'équation de l'existence, donne des clés pour pouvoir avancer.
Et c'est ce que dit aussi le « nous » collectif du titre.
Absolument.
Merci beaucoup Caroline Laurent.
Merci.
Je rappelle le titre de ce livre, Ce que nous désirons le plus, publié aux éditions Les Escales.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.